L'écoute chemin vers la rencontre, c'est le thème du cycle de conférences de foi et culture qui se déroule à Pau cette année. Aujourd'hui, nous vous proposons l'intervention de Charbel Atala, prêtre maronite, enseignant à l'Institut catholique de Paris au sein de l'Institut de sciences et de théologie des religions dans lequel il dirige l'axe islam. Écoutez Dieu dans les autres religions, Charbel Atala, prêtre maronite.
Je commencerai par dire que je suis né en 85. C'était les dernières années dures d'une guerre civile horrible au Liban. Et j'ai hérité de beaucoup de rancunes, de traumatismes, de haine pour l'islam. Mon grand-père avait un chien qu'il avait appelé Mohamed même. Et j'ai hérité de beaucoup de peurs et de préjugés. Et en même temps, j'avais beaucoup de copains à l'école, musulmans. Mais il manquait une conversion intérieure. Et puis je suis entré au séminaire sans me poser la question, mais plus j'avançais, plus j'approfondissais ma foi, plus je faisais de la théologie, plus je voyais que j'étais schizophrène en fait. Que je ne peux pas aller plus loin dans mon chemin avec le Christ et garder quand même cette peur, cette haine en moi que j'ai hérité en plus. Moi j'avais 5 ans à la fin de la guerre civile et j'ai vécu une conversion vraiment, une conversion à ce chemin du dialogue. Et j'insiste sur le mot conversion. Et aujourd'hui même je parle d'une vocation. Je dirais à la fin comment c'est devenu tellement structurant pour l'identité chrétienne depuis le pape François. Mais voilà, je dirais que mon approfondissement de la foi, de ma foi, m'a mené sur ce chemin. Il y en a dont l'approfondissement de la foi peut mener sur des chemins contraires, je ne sais pas, chacun a ses propres chemins. Et encore, l'islam a approfondi ma foi. J'ose dire que je suis devenu meilleur chrétien à la rencontre des musulmans. Et ce n'est pas par un jeu de comparaison, c'est en pratiquant le dialogue et en contemplant de l'intérieur cette religion, en me décentrant tout simplement. Contemplant de l'intérieur, c'est une expression que je vole à Christian de Chergé, pour laisser chez soi et aller chez l'autre, s'asseoir et contempler de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et je suis devenu meilleur chrétien à la rencontre des musulmans, si c'est une phrase que je vole de Louis Massignon, en disant que grâce à l'islam, j'ai grandi dans ma foi. Et c'est pas dans un jeu opposé, c'est vraiment le miracle de la rencontre. Je suis allé déjà très loin. Je commence avec vous vraiment avec une petite méditation. Comment le dialogue m'apprend à écouter. Car parfois on dialogue tout simplement sans parler. Je vous invite vraiment à lire la méditation de Christian de Chergé sur le texte de la Visitation. Quand Marie rencontre Élisabeth, il dit, elles ne se disent pas grand chose, elles se saluent et leurs entrailles bougent. Parfois, c'est simplement le miracle de la rencontre qui fait bouger nos entrailles. Parfois, tout simplement, un jeu de présence, un jeu de silence. Mais c'est aussi un jeu de parole, parce que dialogue, c'est vraiment parole entre deux, dialogos. Et accueillir et écouter, c'est avant tout un exercice d'hospitalité. Moi qui ai grandi avec un grand-père qui appelait son chien Mohamed, la première fois où j'avais à lire le Coran. Mais c'était un vrai défi à accepter, à écouter à voix haute les versets violents, antichrétiens. Je me suis dit, mais je dois accueillir si je veux vraiment connaître déjà pour commencer. Je dois accueillir. Je dois recevoir la parole de l'autre. D'où cette idée qui suit, écoutez, c'est, comme le dit le pape François, c'est une extase en fait, c'est une sortie de soi, c'est faire de la place, déjà. C'est se laisser toucher, c'est se laisser déranger, c'est se laisser perturber par une parole autre et dérangeante. Et en grandissant dans ma foi, et après cette conversion, je suis passé de la haine à l'indifférence et de l'indifférence à la relation. Et aujourd'hui, c'est la voie que j'ai choisie. Avant de partir en croisade contre les musulmans, je fais primer la relation, l'amitié et l'hospitalité. Et je pense, vous me corrigerez, vous pouvez me contredire, je pense tel est le chemin de Jésus dans l'Évangile. S'incarner pendant 30 ans, pour 3 ans seulement de prédication, s'incarner, être là, entrer en relation, vivre comme les autres, vivre avec les autres, pour 3 ans seulement de prédication. Prenez l'exemple qui a été considéré comme échec par quelques-uns, de Charles de Foucault. Lui qui est parti en croisade en voulant baptiser plein de berbères. C'est le premier qui a traduit la Bible en berbère. Il n'a converti personne. Il a dit, c'est moi qui ai changé. Mais j'ai converti personne, mais j'ai eu beaucoup d'amis. La relation qui prime avant la conversion, surtout que la conversion c'est pas notre œuvre. Et tout au long de mon exposé, vous allez comprendre que je ne renonce pas à l'annonce, je ne renonce pas à l'évangélisation, mais au contraire, je mets avant tout l'incarnation, je mets avant tout la relation, car je ne suis pas avec ces méthodes directes d'évangélisation évangélique dans les rues avant de rentrer en relation. Et quand je disais que la conversion c'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Partir en croisade parfois c'est un peu forcer le travail de l'Esprit Saint. Et surtout que je fais partie de ces gens qui confondent vérité et chemin. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Je ne possède pas la vérité. Je continue de la découvrir et à travers les autres différents. Mais ma vérité s'appelle Jésus-Christ, je vous rassure. Mais je continue de la découvrir à travers les musulmans. Moi, j'ai appris à prier grâce aux mystiques musulmans. Je termine une thèse qui a duré 6 ans. J'ai eu honte. La première fois quand j'ai lu les mystiques musulmans, je me suis dit, mais moi, mes laudes et mes vêtres de prêtre, mais sans rien du tout. Face à ce qu'ils appellent les mystiques musulmans, 12 prières surérogatoires, en plus des 5 prières pour eux qui sont d'apéritifs. J'ai appris à prier grâce aux mystiques musulmans. Et j'ai découvert la vérité de la prière grâce à eux. Et c'est grâce à eux que je suis allé puiser chez mes mystiques chrétiens que je méconnaissais. Et voilà, pour moi, l'écoute, c'est toute une histoire de conversion, tout un chemin. Et permettez-moi là de faire un peu d'histoire, personnalisée ou pas, pour voir qu'on n'a pas toujours réussi l'écoute, qu'on n'était pas toujours à l'écoute, alors que je ne veux pas vous donner les fondements théologiques et bibliques sur lesquels je fonde ma foi en le dialogue. Je vais directement partir par un aperçu historique et peut-être au fur et à mesure, on dégagera ces fondements ensemble. Cette crispation progressive, en fait, on a hérité d'une histoire de crispation. Et vous allez voir que parfois on répète les mêmes choses contre les musulmans qu'on répétait au 7e siècle déjà. Moi, je suis tombé de nu quand j'ai découvert un texte du 7e siècle qui disait la même chose que ma grand-mère répétait. Que les musulmans sont mauvais, que les animaux sont mieux, que les mêmes parfois. On a hérité d'une crispation qui a des siècles et aujourd'hui on vit quelque chose de prophétique depuis que l'Église a changé de voie, a choisi la voie du dialogue. On a cassé, on a brisé quelque chose avec Paul VI et j'y reviendrai. Cette crispation qui dure, je dirais, depuis le 4e siècle, elle est tardive, car au 1er siècle, on a eu des génies qui sont les pères de l'Église. Qui sont les pères de l'Église? C'est les premiers théologiens, c'est pour cela qu'on les appelle. C'est les premiers qui ont pensé notre foi et qui y avaient à la définir et pas à la rendre intelligible, en fait, à l'expliquer face aux défis des hérésies, des schismes et d'autres. Regardez, moi je dirais que aux deux premiers siècles, on avait déjà ce qu'on appelle une théologie des religions. Ça veut dire quoi, une théologie des religions? C'est la théologie qui réfléchit sur la place des autres religions et leur place dans l'histoire du salut et pourquoi Dieu veut, et je souligne, pourquoi Dieu veut qu'il y ait d'autres religions. Irénée, du deuxième siècle, il parlait déjà des quatre alliances. Deux alliances universelles avec Adam et à Noé. Une seule particulière à Moïse, puis une récapitulation universelle avec le Christ. Justin, sans parler du dialogue avec les Juifs, c'est le père de cette idée que Vatican II va prendre telle qu'elle l'idée des semences du Verbe, du Christ, parsemées, disséminées, pas seulement dans l'univers, mais dans les autres religions. Il y a cette idée qu'il y a des semences, des graines de Jésus, parsemées dans les autres religions, qu'il y a quelque chose de Jésus quand même, pas seulement dans les autres religions, mais là où il y a du vrai, de l'amour et du beau. Et plus. Et parfois, ces quelques graines, ces petites semences sont capables de conduire à travers le Christ, l'autre au ciel. Quoique incomplète. Quoique incomplète. Et Vatican II va reprendre cette même idée du Logos Spermaticus, qui date, voilà, du deuxième siècle de Justin. D'autres, Clément d'Alexandrie, qui va dire que la philosophie nous parle de Dieu, pas seulement les autres religions, est un lieu de révélation. Origène va prendre cette figure de l'Ancien Testament, un devin païen qui va annoncer cette phrase. De Jacob monte une étoile, d'Israël surgit un spectre qui prophétise déjà l'incarnation. Et il va faire tout un exposé sur les rois mages, comment Dieu passe par les étoiles parfois pour parler aux autres, par leur science, par leur superstition limite, comment Dieu peut les rejoindre, mais pour les conduire à la vérité complète, pour les conduire vers le Christ. Mais Dieu les rejoint déjà, Dieu ne m'attend pas en fait d'aller en croisade pour les rejoindre. C'est ça l'idée. C'est ça ce que Saint-Pierre va découvrir quand l'Esprit-Saint va l'envoyer chez Corneille et sa famille. Il va voir que l'Esprit-Saint l'a déjà cultivé en fait, a déjà labouré la terre. Et lui, il n'avait qu'à recueillir le fruit. Cette idée de dire que Dieu m'attend pour aller retrouver les autres, oui peut-être, mais ne m'attend pas que moi, Il les a déjà retrouvés. Et moi, je dois les retrouver là où Dieu les a retrouvés. Depuis l'Empire chrétien, cette histoire de crispation commence. Voilà, je ne vais pas vous faire un exposé historique. Mais il y a le politique qui va faire vraiment de la religion une affaire politique à cause de plusieurs raisons. Lutte contre le paganisme, parfois violente, la peur des barbares, et lutte interne contre les hérésies chrétiennes. Tout ça va nous renfermer, et à cela s'ajoute la chute de l'Empire d'Occident et l'arrivée de l'islam au 7e siècle. Et j'aimerais faire une petite parenthèse, ouvrir une petite parenthèse sur cette relation entre les musulmans nouveaux arrivants en Proche-Orient et les chrétiens d'Orient. En fait, on les a bien accueillis au début. Les Arabes venus du désert, on leur a ouvert nos portes, les portes de nos villes en Syrie, au Liban, en Palestine. Et déjà, il paraît que la région était épuisée par une guerre interminable entre les Byzantins et les Perses. Pour cela, on attendait ces Arabes comme des nouveaux, comme des sauveurs. Mais je dirais, les 50 premières années, ça s'est pas mal passé. Faut pas généraliser, voilà. Et c'est avec ce dernier père de l'Église, Jean Damascène, autant je l'aime, autant je lui en veux. Lui, son grand-père, était haut fonctionnaire au début de l'Empire musulman. Et son père aussi, haut fonctionnaire. Et lui, il a hérité aussi. Parce qu'en fait, quand les musulmans arrivent en Proche-Orient, ils vont garder la même organisation que les Romains, et ils vont garder les chrétiens pour diriger comme hauts fonctionnaires. Parce qu'eux, ils viennent du désert, ils n'ont pas d'expérience. Et c'est un peu quelques décennies que les musulmans vont commencer à se renfermer. Et face à ce renfermement, on dit que Jean Damascène a été renvoyé. On dit que même un autre fonctionnaire musulman lui a tourné le bras jusqu'à lui casser. Et on a cet écrit des années 720 à peu près. L'islam est une hérésie, est une superstition. L'islam est satanique. Et si vous lisez ce texte, il les appelle ismaéliens, sarrasins, mohammédiens. Et c'est un homme blessé, en fait. Il livre un texte très anti-musulman qui va influencer l'imaginaire. Après lui, on va répéter, reprendre les mêmes idées. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet, l'islam comme hérésie de Jean Damascène. Et pour vous dire depuis quand, dans l'imaginaire, dans le discours chrétien, il y a cette idée que l'islam est une hérésie, qu'il est satanique, c'est une superstition, qu'il est un mélange d'hérésies. 720 à peu près. Et je vous assure, les mêmes idées. La semaine dernière, on travaillait ce texte, il y avait un prêtre irakien qui m'a dit, mais dans mon village, on répète toujours ces pensées anti-islamiques. Toujours. Je ne veux pas parler des croisades, mais là, voilà, c'est un apogée de... ce n'est pas seulement du renfermement, c'est quand on passe à la violence et au djihad dans les deux côtés. Et pourtant, j'aimerais vous parler de ces deux cas. En pleine cinquième croisade, on a un François d'Assise qui va à la rencontre du sultan d'Égypte, Al-Malik Al-Kamel. pour dire qu'il y a eu toujours des contre-courants qui prêchaient le dialogue. Il n'était pas majoritaire. Vous imaginez? En pleine cinquième croisade, un François d'Assise va discuter avec le sultan ennemi. Et il n'obtient aucune conversion. Mais il dit que le sultan était admiratif de sa foi et de sa simplicité. Pour moi, c'est déjà réussi. Parce qu'il y a eu une rencontre. Il n'y a pas eu de conversion. Mais il y a eu une vraie rencontre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je mets la rencontre avant tout. Il y a eu vraie et bonne rencontre. Pourquoi j'aimerais bien m'arrêter sur cette idée pour vous dire que c'est toujours possible, même en pleine croisade. C'est toujours possible et même si actuellement dans l'Église, moi parfois je reçois plein d'insultes quand j'organise des rencontres islamo-chrétiennes sur Paris. Parce que je laisse inviter des femmes voilées dans les églises, c'est choquant, je leur dis mes maris est voilée. Et il y a une remontée, il y a un retour dans l'église, au sein de notre église, un discours, pas seulement anti-dialogue, mais voilà, comme vous dites, missionnaire d'une manière directe. Et moi je répète, je renonce pas, ni à ma foi, ni à l'annonce. Mais je fais primer la rencontre et je laisse Dieu agir à travers cette rencontre. Une autre initiative, cette fois elle est assez prosélyte, mais quand même ça vaut la peine d'en parler, parce que les franciscains et les dominicains très tôt vont envoyer des missionnaires chez les Arabes. Les franciscains y allaient pour mourir, parce qu'ils étaient vraiment dans ce qu'on appelle l'évangélisation des rues, directe. Du coup, ils ont eu beaucoup de martyrs. Les dominicains, ils y allaient avec la raison, avec l'intelligence. Et quand même, même si le but était connaître pour convertir, et pas comme c'est écrit dans cette brochure, du certificat que nous proposons à l'Institut catholique, connaître l'islam pour rencontrer les musulmans, pas pour convertir tout de suite, mais quand même ce qui vaut la peine dans cette initiative au XIIIe siècle, c'est connaître. Ils commençaient à apprendre l'arabe, ils commençaient à s'intéresser, ils commençaient à lire le Coran. Mais déjà, ils voulaient connaître. Et à travers déjà cette connaissance mutuelle, il va avoir plein de belles rencontres. À partir du 15e, 16e siècle, ça y est, on a compris que les croisades étaient un grand échec et que c'était pas le plus chrétien qu'on a eu. Puis il y a eu la découverte des nouveaux mondes avec les indigènes. Et les Portugais, les Espagnols qui arrivent dans ces îles, ils se disaient, mais eux, tous ceux qui sont morts ici sans avoir jamais entendu parler du Christ, Dieu ne peut pas les condamner. Il y a toute une réflexion qui commence à naître sur un salut possible hors l'Église. Et là, on sort de cet adage, hors l'Église, point de salut. Or le Christ, point de salut. Or, le Christ déborde. Le Christ déborde au-delà de l'Église. Et on revient sur cette idée des semences du Verbe, parsemées dans les autres religions, dans les autres cultures, parce que ce Christ sans lequel il n'y a pas de salut, déborde. Puis, il y a Louis Massignon, dont j'ai parlé, avec son expérience avec l'islam. lui qui était jeune doctorant en Irak, il va vivre vraiment une expérience mystique en découvrant un soufi, un mystique qui s'appelle Al-Hallaj. Et il va lui dédier 2000 pages. Il l'appelle le Christ de l'islam parce que cet homme, il a été crucifié car il a osé dire lors d'une extase mystique « Je suis Dieu ». Lors d'une union mystique, il a osé dire « Je suis Dieu ». Du coup, il l'appelle le martyr de l'amour divin et il lui dédie 2000 pages. Ça s'appelle la passion d'Al-Hallaj. Et à travers cette mystique musulmane, à travers la découverte de la spiritualité musulmane, il a fini par devenir prêtre. Comme il était marié, il est devenu prêtre oriental, grec méphite, car les mariés peuvent devenir prêtres. Et moi, vraiment, j'ai suivi un peu son chemin. Je voulais connaître l'islam pas par BFM TV, ni par les discours plein de préjugés. Il y a, et moi, il y a l'islamisme, je suis dans le 9-3, si vous connaissez un peu. Je suis en croisade contre l'islamisme, mais je ne suis pas en croisade contre les musulmans. Et j'ai pris vraiment, j'ai voulu choisir comme porte d'entrée la mystique. Pas, voilà, ni la peur, ni l'islamisme. Puis un autre à la même époque, lui il va un peu aller trop loin. Et c'est important d'en parler. Ce moine bénédictin qui va limite glisser un peu dans le syncrétisme. Vous savez c'est quoi le syncrétisme? C'est quand dans l'écoute, dans la relation, il n'y a plus de différence en fait. C'est-à-dire que tout est pareil. C'est un peu le relativisme. L'important, le dialogue n'est pas du syncrétisme, n'est pas du relativisme. Moi, quand je dialogue avec les musulmans, j'annonce clairement que Dieu est, je crois, en un seul Dieu en trois personnes, que le Christ est le Fils de Dieu. Je laisse tomber rien. Mais, on est en relation. Et c'est parfois l'occasion d'annoncer sa foi. Il m'est arrivé d'annoncer ma foi au cœur des mosquées dans le 9-3. Car je ne viens pas en croisade. Ils m'ouvrent leur mosquée. Si je venais en croisade, je n'y aurais pas accès et je n'y aurais pas pu exprimer ma foi, ni prier même en présence d'eux. Puis, en même temps, il y a pour ceux qui aiment la philosophie, il y a ce développement de la philosophie personnaliste qui est vraiment prophétique. Avec Emmanuel Mounier, entre deux guerres, Lévinas, cette idée que l'homme est parole, l'homme est relation, l'homme est verbe, ce qui fait que l'écoute devient vitale. Écouter, être écouté. Je vous invite vraiment, on est un peu perdu à notre époque, si vous voulez une voie philosophique qui réconcilie foi et raison et qui réconcilie foi et dialogue, lisez nos trésors, Mounier et Levinas. Tout ça, au début du XXe siècle, va vraiment nous mener, c'est cet homme qui est saint quand même, le saint Paul VI, avec cette phrase de son encyclique qui s'appelle « Notre Église », rédigée un an avant le texte sur l'islam du Vatican II, auquel je vais revenir, cette phrase qui résume tout, l'Église se fait conversation, l'Église se fait parole, l'Église se fait écoute. Alors, à propos de ce texte, de cette impulsion intérieure de charité qui tend à se traduire en un don extérieur, nous emploierons le nom devenu aujourd'hui usuel de dialogue. Pour lui, le dialogue est synonyme de charité. De charité. Et ce qui est beau, si vous lisez Ecclésiastique, il ne parle pas des musulmans. Pour lui, il utilise le dialogue comme moyen de réforme interne de l'Église. En disant, sans dialogue, on ne peut pas changer. C'est un moyen de réforme. Je ne peux pas changer. Si si je ne suis pas un être de dialogue. Je ne peux pas. Selon moi. Et voilà cette expression. L'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. Elle n'est pas contre le monde dans lequel elle vit. Elle doit entrer en dialogue avec le monde. Pas contre le monde. 64, quand même. L'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation. Et j'aime beaucoup, je me suis dit, pour un thème sur l'écoute, les quelques vertus ou consignes qu'il donne pour entrer en dialogue, je trouve ça tellement beau, être clair. Voilà, pas de confusion, ni de cachotterie, ni d'opportunisme. Être doux, être confiant et en même temps être pédagogue. Voilà, vous pouvez vraiment trouver aussi facilement Ecclesiam Suam si vous voulez l'approfondir. Et là, j'arrive à ce texte qui est le dernier quand même du Vatican II. Il a failli ne pas sortir parce qu'il y avait des résistances internes. Il y avait des cardinaux et des évêques qui ne voulaient pas qu'on parle bien des autres religions dans Vatican II. Oui, on peut parler des juifs parce que oui, après les deux guerres, on n'était pas toujours net. Il faut dire voilà, qu'on est en plein dialogue, en pleine complémentarité. Mais parler des musulmans, on ne voulait pas. C'est pourquoi c'est sorti en dernier ce texte du Vatican II, Nostra Aetate. Et grâce aux évêques et patriarches arabes orientaux qui ont dit, si vous sortez avec un texte où vous ne parlez que des juifs, nous on vient avec des musulmans. On va en être victimes, nous les chrétiens d'Orient. Par conséquent, il faut opter, il faut voter ce texte qui a été réfléchi par des théologiens depuis les années 50. Et regardez ce qu'il dit sur deux niveaux. Déjà, l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions, les autres religions. Là, ce qui est vrai et saint, c'est les semences du Verbe. C'est le Christ chez les autres. C'est ce qu'il faut aller chercher avant tout, je pense. Et j'ouvre une parenthèse. J'aime beaucoup la fin de l'évangile de Saint Jean qui dit parce que Christine en était témoin, parfois dans les conférences, je peux avoir des opposants qui sont assez, qui me disent « Mais pour toi, le Christ n'est pas la vérité ?» Je lui dis, mais bien sûr qu'il est la vérité. Et je ne dis pas le contraire. Mais à la fin de l'évangile de Saint Jean, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous révéler, à vous raconter. Et s'il me racontait ces choses à travers l'autre différent, et à ceux qui me disent, mais le Christ n'est pas pour toi la vérité, je lui dis, mais est-ce que tu connais vraiment, absolument la vérité? C'est pourquoi j'ai commencé par dire la vérité est un chemin. En même temps, regardez, on revient, on rejette rien et on répète que le Christ est la voie, la vérité et la vie. En même temps. Ce en même temps. Qui est un peu notre vocation. Et voilà ce magnifique texte. Pour la première fois, un texte officiel parle positivement de l'islam. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans. Et là, on va répéter un peu le credo musulman, en quoi les musulmans croient, et les convergences, qu'ils ont la notion de Dieu et qu'on peut coopérer ensemble. Mais moi, j'ai souligné vraiment, regarde avec estime les musulmans. Et à partir de ce moment, voilà, on coupe avec un héritage de controverses, de haine, de préjugés, de croisades qui a duré des siècles. Et voilà, il y a une conversion qui se vit au sein de l'Église et même un chemin d'écoute et de dialogue qui commence avec les rencontres d'Assises. Est-ce que vous avez entendu parler des rencontres d'Assises en 1986? Ce qui est beau, c'est une prière en présence, ensemble. Nous ne prions pas ensemble, mais ensemble nous prions, car on n'a pas la même prière. Ça sera une erreur théologique. Moi, je prépare beaucoup de couples islamo-chrétiens au mariage. Parfois, ils viennent avec une cérémonie vraiment qui ressemble à une salade composée. Je leur dis non, on ne peut pas remplacer la première lecture par un texte du Coran. Il faut respecter les limites, les frontières. Et on ne peut pas faire de la salade. Voilà. On ne peut pas prier ensemble, parce que ce n'est pas la même prière. Déjà, quand je commence au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, lui, il va crier « Allahu Akbar, blasphème ». Je ne peux pas. Mais ensemble, nous prions, on prie en présence. Et moi, je trouve ça tellement beau quand vous avez des chrétiens qui prient à côté des musulmans. Et on se nourrit, en fait, de cet élan spirituel qui naît de ce recueillement. Et c'est ce qui s'est passé à Assises, où il y avait à peu près toutes les religions, à la mairie, au palais, à la pisaille. Ils priaient en même temps, chacun sa prière, et pour une intention particulière. Et il y a ce texte qui va sortir du dicaster sur la doctrine de la foi et qui met dialogue et annonce. Moi, je peux parler une heure du titre seulement. Déjà, il met dialogue avant et pas annonce pour, voilà, ou dialogue pour l'annonce. Moi, je n'utilise pas vraiment le dialogue pour annoncer. Il y a beaucoup de nuances dans ce que je dis. Je ne renonce pas. Je ne renonce pas à l'annonce, mais je n'utilise pas le dialogue pour annoncer. Parce que ce qui fonde une vraie relation, c'est déjà la gratuité. L'inconditionnel. Si j'utilise l'amitié et l'hospitalité, comme parfois on a fait dans notre église, la charité, pour témoigner, oui, mais pas pour convertir. Je répète. Voilà, ce sont deux choses différentes, indissociables, mais on ne peut pas instrumentaliser l'une pour l'autre. Et annonce, ce n'est pas le dialogue EST annonce, le dialogue n'est pas annonce. Ce sont deux entités complémentaires mais différentes. Et ce n'est pas dialogue ou annonce. Comme on me le sort parfois en me disant que moi je prêche le dialogue et je renonce à l'annonce. Voilà, ce texte me fait tellement de bien parce que déjà par le titre, il dit l'approche, il exprime le chemin. Et j'aimerais bien exposer avec vous un paragraphe de ce texte sur les obstacles. Pardon, là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai écrit. C'est obstacle au dialogue. Un ancrage insuffisant dans sa propre foi. Moi, avant de faire de l'islamologie, mon évêque m'a obligé de faire un master en théologie dogmatique. Il m'a dit, mais connais-toi toi-même avant d'aller à la chercher les autres. En fait, celui qui ne se connaît pas ne peut pas entrer en dialogue, ne peut pas même écouter. Il ne peut pas entrer en relation si on ne se connaît pas déjà. C'est pourquoi Moi, mes jeunes à la paroisse, avant de les envoyer prêcher, je ne les envoie pas prêcher, mais ma première mission, c'est de les aider à se réapproprier leur foi déjà. Je sais qu'ils vivent dans les cités avec des caïds, des musulmans, du prosélytisme, de l'islamisme, mais avant tout, je les aide à être forts dans leur foi et en être fiers. Et savoir en rendre compte quand il le faut, avant d'ouvrir des écoles pour convertir les musulmans. Mais est-ce que je me connais déjà? Est-ce que je suis déjà bien dans mes bottes? Et pire encore, une connaissance tellement fragmentée et à travers. Par exemple, les chrétiens pendant des siècles vont connaître l'islam à travers les écrits négatifs de Jean Damascène. Pour dire c'est ça l'islam. On ne va pas aller chez les musulmans et dire parle-moi de ta foi. Mais non, je parle de l'islam comme ma grand-mère me le présentait. Et parfois, voilà, il y a un problème de il y a un problème de vocabulaire. Et parfois, il y a un soupçon sur les motivations de l'autre dans le dialogue. Quand on est sur le chemin de dialogue, on n'est ni parano, ni naïf. C'est pas parce qu'il y a quelques musulmans qui instrumentalisent le dialogue, qui sont peut-être intégristes, mais qui utilisent le dialogue pour s'afficher ouvert pour des raisons, que je dois renoncer au dialogue. Et je vous dirai pourquoi. C'est pas parce qu'il y a seulement une poignée de musulmans qui croient au dialogue et que le reste n'y croit pas que je dois renoncer au dialogue. C'est pas seulement parce que c'est toujours les chrétiens qui font le premier pas, qui prennent l'initiative. Et les musulmans, voilà, c'est une autre histoire. Il y a un évêque qui a vécu en Turquie qui disait « La réciprocité n'est pas chrétienne. » On attend toujours autant ou pareil ou une réaction. Le chrétien n'agit pas en fonction de la réaction, mais en fonction de ce qu'il est. Alors, voilà, je parle encore 5 minutes. Merci de votre patience. Le pape François, pour moi, voilà, j'espère qu'il s'en sortira. Pour lui, j'aurais dû mettre un autre titre. Là, j'ai ajouté ça rapidement dans le train. Pour lui, il le dit, le dialogue n'est plus une option. N'est pas une option, en fait. Être chrétien, c'est être en dialogue. Tu es à l'image de Dieu. Dieu est lui-même dialogue. Notre Dieu est déjà dialogue entre 3 personnes. Et Dieu, il est parole. Dieu, il a toujours pris en lui l'initiative. C'est toujours lui qui prend l'initiative, malgré le rejet et les portes fermées. Et gratuitement. Il lui dit, voilà, tu y es dialogue par ton baptême. Ce n'est pas une option en fait. Si tu n'es pas dans ce chemin de dialogue, tu renonces à ton baptême. Et dialogue, je dirais malgré tout. Moi, j'ai une vénération profonde pour ces deux hommes. Et vous savez que la base de leur ouverture et de leur chemin de dialogue est née d'une amitié avec des musulmans. À la base, c'est la relation qui prime. Vous savez que Pierre Claverie a été assassiné avec Mohammed, son chauffeur, qui savait qu'il allait mourir et qui lui a dit « Je mourrai avec toi ». Et vous pouvez, il y a un petit traité sur le dialogue islamo-chrétien, il reprend les béatitudes en disant le chemin de dialogue, c'est le chemin des béatitudes, et il parle de la béatitude zéro. Il dit que c'est vraiment la béatitude de base et qui ne se trouve pas dans les béatitudes sur la montagne. Est-ce que vous pouvez rappeler de heureux les, mais pas dans le texte des béatitudes qui sont ailleurs? Heureux les. Pas les cœurs purs, pas les miséricordieux, on est dans le texte de béatitude. Il dit, il prend saint Thomas, ce que Jésus a dit à saint Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, et il dit, heureux ceux qui font confiance. Et la béatitude zéro, c'est la confiance. Voilà. C'est la base. Moi, j'ai fait confiance à Mohammed. Il est mort avec moi. Et Christian de Cherger, n'en parlons pas. Voilà, c'est. Ma mort, évidemment, dans son testament, il écrit, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste. C'est ce qu'on nous dit parfois. Tu choisis le chemin du dialogue, tu es soit naïf, soit instrumentalisé, soit idéaliste. Qu'ils disent maintenant ce qu'ils en pensent, autrement, je choisis le dialogue jusqu'au bout, jusqu'à en mourir. Et voilà deux identités chrétiennes qui ont fait du dialogue, pas seulement un chemin de vie, mais un chemin de sainteté jusqu'au don de soi, et je vous remercie.
Écoutez Dieu dans les autres religions, vous venez de suivre l'intervention de Charbel Atala, prêtre maronite, enseignant à l'Institut catholique de Paris au sein de l'Institut de sciences et de théologie des religions, dans lequel il dirige l'axe Islam. Cette conférence a été enregistrée à Pau, en l'église Saint-Paul, le 21 mars 2025, lors du cycle de conférences de foi et culture, l'écoute chemin vers la rencontre.